On s'entretient avec le député de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes, député du Bloc québécois, qui va nous tracer son bilan de session de la dernière qui vient de se terminer, session d'automne. D'abord, bonjour Yves Perron.
Bonjour.
Yves Perron, dans ce bilan, si vous aviez à retenir, disons, deux bons coups, les deux meilleurs coups du Bloc.
En général. Mais je pense que le dernier dossier qui a levé, c'est les chauffeurs Inc.
Oui,
les chauffeurs à rabais. On a eu des appels en circonscription, moi et plusieurs autres. On a rassemblé les informations, on s'est mobilisé, puis notre porte-parole en transport, Xavier Barcelot-Duval, a fait un super job là-dessus. Réussi à rassembler les acteurs du milieu, puis a lancé une étude également au comité permanent du transport. On a été surpris de voir que les libéraux bloquaient l'étude. On s'est posé beaucoup de questions.
Pourquoi, selon vous?
On a un petit doute récent, là. Ça a l'air qu'il y a des bons financiers du Parti libéral qui sont bien placés dans cette industrie-là. Je ne vais pas dire que c'est ça directement, mais ça ne regarde pas bien. C'est beaucoup aussi situé en Ontario. Alors, oui. Je ne sais pas s'il y a un enjeu avec les élus de l'Ontario, mais nous, évidemment, pour la sécurité des Québécoises et des Québécois, on ne peut pas accepter ça. Et des chauffeurs qui sont sous-qualifiés, sont sous-payés, sont exploités, travaillent des heures impossibles. Puis, comme ils ne sont pas très, très bien formés, ils provoquent des accidents. Puis, on a des décès, là, des familles, des jeunes enfants. Puis, à un moment donné, ça suffit. Donc, on a formulé une série de 10 recommandations qui régleraient le problème. Le gouvernement en a adopté une seule jusqu'à maintenant. Les pressions vont continuer, mais sans le Bloc québécois, ce dossier-là n'aurait pas levé comme il l'a levé. Donc, je suis très fier de nous sur ce coup-là. Puis le dernier coup, peut-être, encore une fois, au général pour le Bloc, c'est l'amendement qu'on a apporté sur le projet de loi C9.
Oui, ça aussi, C9. C'est un gros dossier.
C9 qui veut prévenir la haine dans les discours, les discours haineux. Ouais. Là, il y a eu toute une démagogie... populisme des conservateurs là-dessus, comme quoi ça limiterait la liberté d'expression. Mais tu sais, quand t'appelles à tuer quelqu'un, c'est plus de la liberté d'expression, là. Donc, à un moment donné, il faut légiférer. Puis nous, ce qu'on a ajouté dans ce projet de loi-là, c'est l'ancien projet de loi de notre chef, Yves-François Blanchet, qui avait déposé dans la dernière législature, qui visait à retirer l'exception religieuse. Le Code criminel canadien permet de faire appel à la violence si c'est dans le cadre d'un discours religieux. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça suffit, là. On arrive en 2026. On est rendu une société laïque au Québec, beaucoup plus avancée sur cet aspect-là que le reste du Canada. Ah, oui. Ça cause des problèmes, évidemment, dans le fédéralisme. Vous savez quelle est notre solution. Oui. Hein? Faisons notre pays, puis on va régler nos affaires. Mais pour l'instant, nous, on doit travailler dans le carcan fédéral. Alors, on a profité de cette occasion-là pour amender le projet de loi. C'est accepté par les libéraux, mais il y a eu beaucoup de pression des groupes religieux, je vous dirais plus radicaux là, de l'Ouest. Oui. Et les élus conservateurs de l'Ouest, je pense qu'ont beaucoup de pression, se sont mobilisés. Et puis si les gens à la maison veulent aller voir ça, là, le comité permanent de la justice, là, c'est atroce. Il y a eu du chantage, il y a eu de l'intimidation, il y a eu... Puis ces gens-là, en même temps... se targue de défendre la liberté d'expression. C'est surréaliste, là. Mais on va y arriver. Puis cet amendement-là est accepté par le gouvernement. Puis je pense qu'on va réussir à éliminer cette faille dans le code criminel. Donc ça, c'est un autre bon coup, je pense, qu'on va réussir à fermer, là. T'sais.
Pour le comté de Berthier-Masquinongé, vous aviez des objectifs de campagne. On se souvient, il y avait notamment la gestion de l'offre aux dernières élections. Il y avait d'autres. Quels sont vos deux meilleurs coups pour le comté, de un ou de l'autre ou des deux?
Oui, c'est sûr que vous mentionnez la gestion de l'offre. On est encore très fiers d'avoir eu notre loi qui a passé une extrémiste au mois de juin, là, donc dans la présente session, après l'élection, là, et qui vient changer la donne de façon importante parce que si vous regardez, vous n'avez qu'à regarder le nombre de concessions que M. Carney a données à M. Trump. Et ça prend pas longtemps de réflexion pour se dire que si la loi n'avait pas été en vigueur, probablement qu'on aurait déjà des pourcentages de marché de données. Alors, ça, on est très fiers de ça. Puis on va être vigilants pour la suite. On a peur que les Américains essayent de venir dans la distribution des quotas d'importation, à savoir qui a le droit d'importer. si on permettait à des détaillants d'importer, ça pourrait avoir encore plus de dommages là, puis d'effets négatifs sur notre industrie. Donc, on va être vigilant. Mais ça, clairement, c'est un bon coup. Sinon, les dossiers des berges puis de l'érosion, ça avance quand même.
Ben oui, je voyais ça. Là,
Les comités se sont mobilisés. La ZIP a obtenu le mandat de toutes les municipalités pour représenter ces municipalités-là, pour demander des limites de vitesse, des choses comme ça. Donc, ça, tu sais, ça fait pas les nouvelles à chaque jour, mais ça progresse. Puis ça, rappelons-nous que c'est parti d'une pétition que j'avais parrainée il y a quelques années. Donc, des fois, c'est long, mais ça chemine. On est content. Par contre, il y a des choses qui sont moins positives, là, nos PME. Oui. C'est difficile, les tarifs, hein? C'est difficile les tarifs, c'est difficile les changements qui ont été apportés par le gouvernement aussi sur les travailleurs étrangers temporaires de façon non réfléchie. Je trouve ça dommage. Je pense que c'est un peu du populisme qui s'est emparé du dossier de l'immigration. Là. Les travailleurs étrangers temporaires là, sont la plupart du temps essentiels. Puis nos entreprises à qui on a demandé de passer de 20 à 10 % bien, ils ont besoin de temps pour le faire. La plupart des gens que je rencontre me disent « c'est correct, on va s'adapter, mais donnez-nous le temps ».
Oui.
Parce qu'ils ont ils ont une banque de travailleurs, ils étaient à 20 %. Puis là, il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps, qui sont bien francisés, bien intégrés, qui voudraient conserver.
Oui.
Ils sont obligés de renoncer à ces travailleurs-là parce qu'il y en a des nouveaux dont le contrat n'est pas terminé. Alors, donnons-nous du temps. On a demandé un moratoire, puis on a demandé une répartition régionale aussi de ces pourcentages-là. Donc, on va continuer à faire pression là-dessus, mais sur ces deux aspects-là, là, c'est clair que c'est pas facile. Il y a la fameuse... La fameuse subvention salariale qu'on pourrait implanter aussi pour nos entreprises. Le gouvernement n'a toujours pas écouté cette recommandation-là.
Ça, c'est important. Vous faites bien de le noter, M. Perron. La subvention aide les entreprises qui doivent couper. Je pense à des grosses entreprises ici dans Maskinongé qui n'ont pas eu le choix. Ça aide l'entreprise à récupérer l'employé après. Là. C'est important.
Puis de ne pas perdre l'expertise.
Oui.
En tout cas, il faut agir intelligemment puis de façon réfléchie. Puis souvent, les politiques sont annoncées à la va-vite pour faire une belle annonce.
Ouais.
Il faut être vigilant, là. Donc, il reste la job. Il reste la job à faire.
Bon. Vous chômerez pas. Yves Perron, sur des questions beaucoup plus larges, on a entendu le premier ministre François Legault du Québec qui disait que, un référendum que veut faire le Parti québécois n'est pas une bonne chose. Il dit qu'il ne faudrait pas qu'on revienne sur les autres qui ont échoué de ravoir une position de faiblesse face à Ottawa. Qu'est-ce que vous répondez au premier ministre qui semble dire à Paul Saint-Pierre Plamondon, « Tu fais... » Erreur d'en faire un parce qu'on n'a pas la majorité déjà dans les sondages intention de vote.
Bon, la première chose que je voudrais mettre au clair avant de commencer à parler, c'est que je suis un élu du Bloc québécois et que la stratégie référendaire et d'accession à l'indépendance, ça va toujours appartenir au vaisseau amiral de l'indépendance, qui est le Parti québécois, qui est à Québec. Donc, ceci étant dit, je peux quand même réagir sur une base personnelle aux propos du premier ministre. Ben, il est dans le champ, évidemment. Vous savez, moi, j'ai bien connu François à l'époque où il était dans la bonne équipe. C'était le ministre qui était responsable de la région de la Nausière et moi, j'étais président d'Ambertier à l'époque. Et je trouve ça décevant, mais en même temps, on ne peut pas toujours avoir peur d'avoir peur. Vous savez, M. Bernard, est-ce que moi, au quotidien, là, à chaque jour, j'ai la démonstration en siégeant dans le Parlement du pays voisin, parce que c'est ça, là. Ce Parlement-là est dominé par une nation qui n'est pas la nôtre et qui n'a pas les mêmes priorités. C'est un beau pays, c'est des gens qui sont gentils, la question n'est pas là. Puis c'est des gens avec qui on devra travailler, puis on voudra même travailler ensemble après, mais d'égal à égal, ce sera plus facile. Et moi, je ne comprends pas qu'on ait peur d'aller consulter la population. Vous savez, 95, ça fait quand même longtemps.
Ça fait un bout.
Sauf erreur, là, c'est les gens de 48 ans et moins ne se sont jamais prononcés sur cette question-là. Et on a beaucoup d'exemples depuis ce temps-là que l'indépendance, elle est nécessaire, souhaitable. Et je vous dis, moi, je vous garantis qu'après 5 à 10 ans d'indépendance, le monde entier va se demander comment ça se fait que les Québécois ont attendu si longtemps pour faire ça. Puis M. Legault nous a aidés dans les dernières années dans sa démarche parce que lui a dit on peut être fiers Québécois puis faire partie du Canada, puis voici nos demandes. Ah, nommez-moi les concessions qu'ils ont obtenues du fédéral.
Il n'y en a pas eu.
C'est zéro open bar. Alors voilà.
Il n'y en a pas eu, et d'ailleurs, ça a frustré François Legault qui dit avoir une belle connivence avec Mark Carney. Mais sur certains points, pour le sauver la langue française au Québec même. Là, on parle, c'est jusqu'à présent, c'est pas fameux.
Il n'y a pas de réponse. Hein? La seule place où, j'ai pas vu toute l'entrevue, mais j'en ai vu une bonne partie. Oui. La seule place où M. Legault a mentionné avoir une connivence avec le premier ministre canadien, c'est sur l'aspect économique. Ben, c'est deux personnes plus de tendance conservatrice, droite, centre-droite. Fait que c'est normal qu'ils s'entendent plus là-dessus. Ben, en même temps, j'ai une inquiétude, moi, sur les lois qu'on est en train de passer.
Ouais.
Puis M. Legault a l'air de vouloir s'inspirer de M. Carney. Ben, moi, nous, on travaille. Je vais parler pour le niveau fédéral où je suis. Là. Mais C5 permet de faire passer des projets d'infrastructure d'intérêt national par-dessus plusieurs lois. Puis là, dans le projet de mise en œuvre du budget, le C15, dans un document de 650 pages, mesdames et messieurs, qui modifie un paquet de lois par paquet de règlements, caché au milieu, il y a un petit paragraphe qui dit que n'importe quel ministre peut suspendre l'application de n'importe quelle loi, sauf le code criminel, sous prétexte d'innovation. C'est où est-ce qu'on s'en va? Là, moi, je suis d'accord pour être efficace. Bien, jusqu'à un certain point, il faut quand même que nos barèmes soient là, il faut quand même qu'on évalue les projets sur la base environnementale et ainsi de suite. Là. Donc, on sera vigilant pour ça, puis on va essayer de demander cette partie-là.
Bon, ça ne m'étonne pas de votre réponse, je le savais, Yves Perron, parce que ça n'a pas passé partout, et il y en a qui les attendent. Là. Quand ça va commencer dans quelques années, même si on veut aller vite, là, il y a quand même, tu sais, c'est des gros projets, il va falloir les travailler. On verra ce que ça va donner.
Ben, hein? Mais soyons clairs, moi, être plus efficace, on est d'accord sur le fond, parce que l'État canadien est une grosse machine qui est très, très lourde à faire bouger. Mais soyons prudents. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée de donner la permission à n'importe quel ministre d'annuler l'application de n'importe quelle loi, parce que là, on se tombe dans l'arbitraire, puis on tombe dans le gros risque, si vous voulez, mon avis.
Dernière question, et on vous laisse après... Yves Perron, la CEUM, récemment, Donald Trump a dit qu'il préférerait, il n'est pas le seul, là, négocier à la fois avec le Mexique puis avec le Canada. On sait qu'ici, on ne veut pas négocier à la pièce, surtout dans le domaine agricole, parce que c'est jamais bon. Est-ce que ce serait mieux qu'on négocie dans une table tripartite ou individuel, à la fois le Mexique et les États-Unis?
Vous savez, M. Trump, ce qu'il veut, c'est être le plus puissant tout le temps.
Oui.
Alors, c'est sûr que lui a avantage à diviser les autres partis, c'est puis les prendre un à un. Ben, moi, je pense pas que c'est à notre avantage. Moi, je pense qu'il est souhaitable qu'on maintienne un accord États-Unis, Mexique et Canada. Je pense que cet accord-là fonctionne bien, il a été positif, malgré des côtés qui sont moins positifs, comme les cessions dans la gestion de l'offre, ainsi de suite. Mais une fois que ça s'est fait, que ces parties du marché-là sont occupées, dans nos autres secteurs, c'est positif. Par contre, il faut qu'il soit appliqué intégralement. Les Américains s'amusent à imposer des tarifs comme ils veulent. Ouais. Ça, c'est en contravention de ces traités-là. Là. Bien sûr, au final, on s'est rendu compte que tous les exportateurs qui étaient accrédités par la CEUM étaient exemptés de ces tarifs-là. Oui. Ça a créé une course, d'ailleurs, à l'accréditation parce que les entreprises ne l'avaient pas fait précédemment parce que ce n'était pas nécessaire. On avait une bonne entente. Le voisin américain est en train de nous démontrer qu'à long terme, on ne pourra peut-être pas toujours lui faire confiance.
Oui.
Mais il faut être ferme dans notre discussion, dans notre négociation. Vous savez, un accord s'applique tant qu'il n'est pas remplacé. Fait qu'on, nous, on a avantage à tenir notre bout. Puis il faut pas, à un moment donné, il faut arrêter de plier. Il faut se tenir debout. Et moi, c'est ce que je souhaite qu'on fasse dans cette négociation-là. Puis, il ne faut pas oublier que les États-Unis, même si c'est notre voisin, ils ont plusieurs choses qui sont différentes. J'ai fait une sortie au début du mois de décembre pour demander l'affichage des viandes issues du clonage.
Oui, je le voyais.
Aux États-Unis, il paraît que c'est déjà fréquent. Là.
Ah,
donc, il y a des choses comme ça qui sont pas pareilles. Et il faut garder quand même nos exigences locales puis nos prérogatives. Puis moi, je suis un défenseur de l'indépendance du Québec, mais face aux États-Unis, on devient ironiquement défenseur de l'indépendance du Canada aussi, parce qu'à un moment donné, là, on ne pourra pas devenir un seul et gros... un gros paquet de gens qui sont regroupés sous l'autorité des États-Unis d'un seul homme qui, tout dépendant, s'il n'est pas de bonne humeur demain matin, va prendre une décision différente. Là. Il faut être sérieux, là.
Ben oui, et c'est pas un aveu d'échec que l'administration Trump a versé, ou va le faire bientôt, 12 ou 13 milliards de dollars aux agriculteurs touchés par les tarifs douaniers. Qu'est-ce qu'on doit comprendre?
Bien, ça, c'est une autre affaire. T'sais, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête d'être le plus virtueux de la gang, là, puis qu'on supporte notre monde. Moi, je suis fatigué de voir... Vous savez, le Canada, c'est un pays du G7. Là. On ne met même pas 1% de notre budget en agriculture.
Ouais.
De mémoire, là, c'est quelque chose comme 0,8. Là, 0,8 là. Donc, soyons sérieux. Si on veut mettre 2 à 5% de notre budget sur la défense, moi, je pense qu'on pourrait mettre au moins 1%. Et pourquoi pas 2% de notre budget pour soutenir le monde agricole? Puis soutenir le monde agricole, ce ne sera pas nécessairement d'y donner des subventions, mais d'offrir un programme d'assurance qui a de l'allure, qui ne leur coûte pas la peau des fesses pour s'assurer que s'ils ont eu le malheur, entre autres, s'ils ont eu le malheur de faire des réclamations des années antérieures, leur prime, ça monte à des prix complètement débiles. Les producteurs choisissent de ne pas s'assurer parce que le risque n'en vaut pas la chandelle. Tu sais, à un moment donné, il faut puis est-ce qu'on veut la préserver, notre autonomie alimentaire? C'est une autre question. Je sais, on est rendu à 2025. Là. Je fais déjà 5 ans, mais rappelons-nous la COVID. Comment, au début, on a eu de la misère à obtenir des masques? Comment, au début, on a eu de la misère à obtenir des vaccins, des respirateurs? Parce qu'on n'avait pas eu la présence d'esprit de se garder une certaine autonomie minimale. Bien, l'autonomie alimentaire, c'est la base de tout. Il faut que demain matin, si les frontières se ferment, je veux pas sonner dramatique, là, mais comme administrateur d'un État, je pense qu'on a la responsabilité de ça. Il faut que demain matin, si les frontières du pays se ferment, on soit capable de nourrir notre monde. Mais si on continue à les laisser à eux-mêmes comme ça, puis à ne pas les soutenir, puis à faire que ce n'est pas payant, j'ai encore en fin de semaine dans les marchés publics, j'ai rencontré des maraîchers qui me disent « Ben là, je vais voir cette année comment que ça va. » Ils ne font pas d'argent, puis ils travaillent comme des débiles. À un moment donné...
On va en perdre.
Ben le gars va cette année.
Ben
les gens vont aller vers les grandes cultures, vers des grains, vers autre chose, puis on n'aura pas ces aliments de base-là à disponibilité ici. Puis c'est bien beau les exporter, les importer de Californie, mais ils ont des problèmes d'approvisionnement d'eau. Hein?
Ben oui.
D'ailleurs, ça va être l'enjeu du prochain, de la prochaine décennie, ça. Là.
Vous faites bien de le noter, Yves Perron, parce que la Californie... voit que les changements climatiques là, s'imposent et très vite. On va suivre ça de près. Vous, je vous souhaite de belles périodes des fêtes et de vous reposer surtout, prendre le temps de lire et de regarder de bons documentaires, Yves Perron.
Oui, comptez sur moi pour me reposer. On a eu un gros automne. faut se rappeler hein, qu'on est moins d'élus qu'avant. Puis il n'y a pas moins de dossiers à défendre qu'avant. Donc, chacun de nous, on a plus de charges. Puis, ben, ça, on veut livrer. Je pense qu'on a réussi à bien livrer. Je pense qu'on peut être fiers de notre session parlementaire puis de la représentation qu'on offre aux Québécoises et aux Québécois. Mais pour être capable de bien le faire au mois de janvier aussi, il faut prendre un break entre les deux.
Bien, je comprends.
Et vous de même, des bonnes vacances, mon cher.
Oui, bonne année 2026, puis je suis sûr que vous ne chômerez pas.
Bonne année, tout le monde.
Vous venez d'entendre une entrevue réalisée en collaboration avec Initiative de journalisme local.